parler aujourd'hui de quelqu'un qui a fait notre histoire à nous ici au Canada, Pierre de la Vérendrye, ou Pierre Gauthier de Varennes de la Vérendrye. Quel nom immense! C'est l'oncle de Sainte-Marguerite d'Iouville. Mais oui, l'oncle de Sainte-Marguerite d'Iouville, très grand explorateur. Il est mort à Montréal, il a été inhumé à l'église Notre-Dame de l'époque, l'ancienne église, en 1749. C'est un des plus grands personnages, vraiment, de notre histoire. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Grand personnage par son audace, Pierre de la Vérendrye. Homme d'un courage sans borne. Un très grand officier en tout. C'était un explorateur qui a dominé tous les autres explorateurs. Un courage sans borne, on n'a aucune idée. Et quand on voit son nom quelque part ou un monument, on passe outre. Et j'imagine que ceux qui sont venus se joindre à nous depuis 50 ans, 100 ans ici au Québec n'ont pas eu la chance de connaître la Vérendrye. Nous qui sommes Québécois de souche, comme on dit, le connaissons-nous vraiment? Car le groupe des la Vérendrye, le père, ses fils et son neveu, le sieur de la Jemeraie, comme on dit, frère de Sainte-Marguerite d'Iouville, qui était une Dufraux de la Jemeraie, et le père, Pierre de la Vérendrye, qui a été le plus décrié, le plus méconnu des explorateurs, la bête noire même, comme dit le chanoine Groux dans son Histoire du Canada français, au tome 2, au deuxième tome, en page 62-63, il dit « le plus décrié, le plus méconnu des explorateurs, la bête noire, peut-on même dire, du ministre et du roi, mais qui est déconvenablement favori de la cour, comme le fut, par exemple, un cavalier de la Salle, aurait atteint, avant 1750, la côte du Pacifique. Mais ce sont ses deux fils qui se sont arrêtés aux Rocheuses. Lui, il n'a pas eu la chance de voir les montagnes Rocheuses. Et par son attachement passionné, continue le chanoine Groux, son attachement passionné au devoir. C'est un chrétien, la Vérendrye. Attaché au devoir. Le sommes-nous? Mon Dieu, que nous ne le sommes plus, hein? Par son attachement passionné au devoir, son esprit fertile en ressources, son extraordinaire persévérance, une qualité que nous avons aussi perdue, semble-t-il. Eh bien, des Anglais comme Lawrence Burpee dans The Search for the Western Sea, ou la recherche pour la mer de l'Ouest, compare la Vérendrye à Bering, l'un des grands explorateurs de leur côté, et la Jonquière, lui, qui a vu à l'œuvre tous ces officiers canadiens, particulièrement la Vérendrye, formés dès leur jeune âge au voyage des pays d'en haut, eh bien, n'hésite pas à les dire plus propres à la défense du pays que les sujets qui peuvent venir de France, car ce sont des gens nés ici. Ce sont des Canadiens, des Québécois, la Vérendrye. Fils du gouverneur des Trois-Rivières, Pierre Gauthier de la Vérendrye, qui a été nommé commandant d'un poste sur le lac supérieur. Puis 2 ans après sa nomination, soit en 1730, il obtient la permission d'établir un poste à l'autre bout du monde, pour ainsi dire, sur les rives du lac Winnipeg, avec privilège de traite avec les sauvages, comme on disait à l'époque, les Indiens, moyennant un droit annuel de 300 000 livres. C'est là le point de départ de sa longue marche vers l'ouest, et de 1731 à 1741, il fera construire 6 forts, qui seront autant de jalons, qui vont marquer la pénétration française dans ces régions. Et comme il ne pouvait pas financer seul l'entreprise, la Vérendrye s'est alliée à des marchands de Montréal. En 1731, il atteint le lac La Pluie, où il fait ériger le Fort Saint-Pierre, et l'année suivante, Il est au lac des Bois, puis il construit le Fort Saint-Charles, très réputé. En 1734, il a atteint l'embouchure de la rivière Rouge. Imaginez les voyages que je vais vous raconter tout à l'heure. Et des problèmes financiers vont l'obliger à revenir à Montréal. Il traverse ainsi le Canada à pied, plusieurs fois, en faisant du portage. Il en sera de même en 1737, l'année de la fondation des Sœurs Grises par Sainte Marguerite d'Youville. En 1738, il construit un fort sur la rive nord de l'Assiniboine. Et puis, c'est toujours marqué par l'envoi régulier de fourrures à Montréal pour faire taire les créanciers. Cette recherche de la mer du sud sera arrêtée au début de l'année 1743. On appelait ça la mer du sud. C'était arrêté par les massifs rocheux, les montagnes rocheuses. Ça a forcé les fils courageux, très jeunes, très très jeunes. Ils sont partis, ils avaient 16, 17 et 18 ans avec leur père. Quel courage, ces jeunes adolescents, hein? Ils sont partis comme ça, ils ont rebroussé chemin, deux de ses fils, devant les Rocheuses. Et la Vérendrye, père, donc, n'a pas vu les Rocheuses. Puis en effet, en avril 1742, ce sont ses fils, là, Louis-Joseph et Pierre, qui avaient continué les explorations. Et puis, ils ont pris possession du territoire au nom du roi de France. Car toute l'Amérique du Nord, à l'époque jusqu'à la Louisiane, appartenait au roi de France et était sous la juridiction du gouverneur de Québec. Et nos ancêtres avaient, au fond, construit presque les postes, les forts, partout en Amérique du Nord, et ils dominaient. Mais ils ont tout perdu. De toute façon, déçus et ruinés, calomniés, Pierre Gauthier de la Vérendrye demande au gouverneur d'être relevé de ses fonctions. Et la Vérendrye aurait voulu repartir vers l'Ouest quand la mort l'a surpris le 5 décembre 1749. D'autres disent le 6 décembre. Donc, je voudrais vous parler de lui parce que c'est un homme d'un très grand courage. Il a fallu près de 2 siècles pour que l'histoire se décide de lui rendre justice. Ce qui fallait vraiment faire. Mais combien de Québécois ignorent son existence? Alors, je ne vous raconterai pas tout. Mais son neveu, le frère de Marguerite d'Youville, a été un héros. Un homme d'un grand courage, et il est mort à 26 ans dans l'Ouest. Ils avaient un courage indomptable, les épreuves dures ne les ont jamais rebutés. Ils sont si vaillants et si tenaces dans la poursuite de leur projet que leur échec personnel n'empêche pas finalement la réussite de leur entreprise quand on y pense bien. Mais avec le temps, et avec l'arrivée des armées anglaises, eh bien, tout a fondu. Et moi, pour ma part, mes cousins, cousines, sont tous anglophones qui vivent dans l'Ouest, ont tous été assimilés de force par des écoles où on enseignait guère le français qu'une heure par jour. C'est triste. Pierre Gauthier de Varennes, donc, est né à Trois-Rivières un 17 novembre 1685, il y a plus de 310 ans. Son père était arrivé au Canada en 1665 avec le régiment de Carignan. Donc, avec mon ancêtre, Jean Beaugrand-Champagne, qui était aussi soldat dans le régiment de Carignan. Il a épousé une fille du fameux Pierre Boucher, Marie Boucher, qui s'était mariée à l'âge de 12 ans. Ils ont eu 13 enfants et se sont mariés en 1667. Et lorsque Pierre Boucher résigne ses fonctions de gouverneur de Trois-Rivières, pour s'intéresser à son domaine de Boucherville, il est devenu, comme on dit, Pierre Boucher de Boucherville. Eh bien, il voulait mettre en valeur ce Boucherville. C'est son gendre, René de Varennes, qui le remplace et qui reçoit sa commission du gouverneur général. Car il y avait des gouverneurs généraux français, évidemment, à l'époque. Ce n'est pas qu'une histoire qui date depuis la conquête. Il devait rester à son poste pendant 20 ans. Et ce n'était pas une situation pour s'enrichir avec une famille d'une dizaine d'enfants. Elle faisait la traite des fourrures avec les Indiens sur son fief qu'on appelle de la Gabelle, à 4 lieues de Trois-Rivières. Et puis, ce commerce paraît n'avoir été guère fructueux. Parce que lorsqu'il est mort, en 1689, il laissait à sa famille la pauvreté, tout simplement. Même s'il possédait la seigneurie de Varennes et un fief, le fief du Tremblay, non loin de Longueuil. Donc le nom de la Virandrie, qui appartenait à une branche cadette de la famille de Varennes en France, a été porté d'abord au Canada par le fils aîné du sieur de Varennes, Louis, qui est entré de bonne heure dans la carrière militaire. Il est devenu capitaine, il est mort en 1707 lors d'une campagne en Europe. Et ce n'est qu'après cette date que Pierre, notre héros là, prend le nom de la Virandrie. Les gens changeaient de nom assez souvent dans ce temps-là. C'est pas comme aujourd'hui. Alors, il va être connu sous le nom de la Virandrie. Il était appelé autrefois sieur de Beaumois. Et même aussi, René, il s'appelait aussi de Varennes, étrange, ou Gautier. Signalons tout de suite qu'une de ses sœurs, donc, Marie-Renée de Varennes, a épousé à 19 ans Christophe Dufraux de la Jameraie, qui lui a donné 6 enfants. Puis le cadet des 3 fils, ils ont eu 3 fils, portait le même nom que son père. Et c'est lui qui va se distinguer dans l'Ouest. On va le retrouver avec son oncle, la Virandrie. C'est lui qui va mourir dans l'Ouest. Et la fille aînée, elle était Sainte Marguerite Marie Dufraux de la Jameraie. Bon, tout le monde sait qu'après avoir épousé le sieur Diouville, pour ça qu'on l'appelle Marguerite Diouville, eh bien, elle va fonder, après la mort de son mari, les Sœurs de la Charité, qu'on appelle les Sœurs Grises. Son tombeau, je vous le signale, est à la chapelle redécorée, refaite, repeinte, du grand couvent des Sœurs Grises au coin du boulevard René-Lévesque. Et ses 2 fils, elles, sont devenus des prêtres. L'un, c'est l'abbé Dufraux, puis l'autre, l'abbé Diouville. Ils ne portaient pas le même nom. Orphelin à l'âge de 4 ans, Pierre de la Virandrie a été destiné à devenir un soldat. À l'âge de 19 ans, en 1704, il participe à une expédition contre Deerfield, dans le Massachusetts, au cours de la guerre de succession d'Espagne. Et l'année suivante, et on le voit guerroyer à Terre-Neuve, toujours pour défendre les intérêts de la France ou les intérêts de nos ancêtres français ici. En 1707, il se fiance, signe son contrat de mariage avec Marianne Dandonneau du Sablé. Et le mariage n'a pas eu lieu tout de suite parce que Pierre de la Virandrie doit s'en aller en France pour y servir dans l'armée. Il va être blessé en Flandre. Il reçoit une balle, 8 coups de sabre. À cause de son audace, il est nommé lieutenant sur le champ de bataille. Et puis, sa nomination n'a pas été ratifiée par le roi de France. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer la petite solde du nouvel officier. Mais heureusement, Madame de Vaudreuil, l'épouse du gouverneur de l'époque en Nouvelle-France, elle se trouvait à Paris à cette époque. Elle a réussi à lui procurer, le pauvre, un brevet d'officier, ce qui lui a donné quelques sous. La Virandrie revient au Canada pour y épouser finalement sa fiancée en 1712, c'est 5 ans après la signature du contrat de mariage. Il a vécu 12 ans avec sa famille où? À l'île du Pas, près de Trois-Rivières, où habitaient mes ancêtres. Moi, ma famille vient de l'île du Pas. Donc, je suis sûr que mes ancêtres ont connu la Virandrie et sa famille. Il avait 4 fils, Jean-Baptiste, Pierre, François et Louis-Joseph, qui ont tous été associés à ses travaux puis aux épreuves de leur père dans des aventures absolument fantastiques. Et il est certain que ses relations avec les Indiens puis les coureurs de bois ont procuré à la Virandrie une expérience très importante. Alors en 1727, c'est là que le gouverneur du Canada, Beauharnois, a eu la bonne idée de le nommer commandant au nord du lac Supérieur, comme je vous l'avais signalé au début. Et puis, la Virandrie avait à ce moment-là 41 ans. Hein, et ce poste lointain que la Virandrie rejoint dès cette année-là a été construit par le frère de Duluth. C'est de là que vient le nom de Duluth, la rue Duluth. On y rencontre naturellement beaucoup d'Indiens des régions avoisinantes. Et c'est ainsi que la Virandrie entend parler d'une nation lointaine, là, les Mandanes. Et c'est là, ces gens-là qu'il va chercher pour essayer d'atteindre le Pacifique. Parce qu'eux, ils savaient comment atteindre la mer de l'Ouest et les consultations fréquentes que la Vérendrye a avec les Indiens le convainquent de la possibilité de découvrir bientôt cette route de l'Orient qu'on cherche toujours au nord du Nouveau Monde. Et il faut pas oublier qu'au début du 18e siècle, personne ne savait l'existence des montagnes rocheuses, voilà, hein? Et on ne faisait même aucune, on n'avait aucune idée des immenses espaces qui séparaient le lac supérieur de la côte occidentale de l'Amérique. Et l'aventure qu'ils vont vivre est absolument fantastique et dépasse tout entendement. Et nous verrons ça tout à l'heure. Et alors, la Vérendrye, en 1728, dont écrit un mémoire au gouverneur du Québec, puis lui joint, chose extraordinaire, une carte qu'il a dessinée sur une écorce de bouleau, d'après les indications d'un chef indien, qui habitait ce qu'on appelle aujourd'hui Fort William, ou Fort William, sur la rive occidentale, ouest du lac supérieur. Et cette carte indiquait parfaitement, chose étrange, la route à suivre. Je vous en fais grâce. Et puis, il trouve le père jésuite de Gonore, qui doit retourner à Québec. Il lui confie son mémoire, puis la fameuse carte d'écorce de bouleau. Alors le gouverneur Beauharnois est tellement impressionné par la perspective de la découverte de la fameuse mer de l'Ouest, l'océan Pacifique, qu'il envoie le mémoire en France. Il invite la Vérendrye à venir à Québec, car il voyait dans cet homme l'homme prédestiné. Pourquoi? Parce qu'il avait une énergie sans borne, une intelligence immense, une expérience à exécuter n'importe quel projet. L'invitation ne parvient qu'à l'été de 1729. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 1000 milles de Québec au lac supérieur, dans des conditions difficiles. Il fallait remonter le courant. La Vérendrye, il fallait faire des portages immenses aussi. Il fallait porter les canots, les bagages. Il fallait se nourrir aussi. Il fallait faire attention aux certains Indiens. Et la Vérendrye revient à Québec, lui, en 1730. Il traverse encore. Il attend là que la cour de France accorde les secours nécessaires à son expédition, qui est fantastique. Et là, la Vérendrye lui demande ce qu'on pourrait équivaloir à peut-être à 100 000 dollars d'aujourd'hui. Avec les dépenses d'aujourd'hui aussi. Une troupe de 70 à 80 hommes pour mener à bien la découverte. Le mémoire ne sera étudié à Versailles que l'année suivante. Ça prend du temps à Versailles. Puis on va répondre que les plans sont parfaitement justes, mais qu'on verra leur exécution dès qu'on pourra disposer des sommes exigées. Quelle lenteur, hein? Et pendant ce temps, c'est-à-dire depuis l'arrivée de la Vérendrye à Québec en 1730, l'année précédente, on discute ferme de ce côté-ci de l'océan. Le gouverneur Beauharnois, lui, est enthousiasmé, comme je vous l'ai dit, de l'affaire. Puis une certaine réponse favorable de la cour presse les choses. Alors, comme rien ne vient finalement de Versailles, le gouverneur Beauharnois passe un contrat en règle. Puis la Vérendrye s'engage à construire 3 forts sur le lac supérieur, ou entre le lac supérieur plutôt et le lac Winnipeg. Puis il aura pour dédommager le droit de faire la traite des fourrures avec les Indiens des régions explorées. Mais ça donne pas l'argent qu'il faut aux futurs découvreurs pour acquérir les marchandises d'échange, parce que ça lui prend des marchandises pour faire l'échange. Alors il doit emprunter des fonds à quelques marchands, puis c'est de là que vont naître les disputes, parce qu'il n'y aura pas toujours l'argent à payer, puis il va être discrédité plus tard. Il faut trouver une équipe, hein? La famille La Vérendrye est mise à contribution et 3 fils de La Vérendrye, Jean-Baptiste, Pierre et François, sont choisis pour accompagner leur père. Ils ont, et écoutez bien ça les jeunes, hein, car je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, ils ont 18, 17 et 16 ans, comme je vous ai dit au début. Et Louis-Joseph, qui n'a que 14 ans, est laissé à la maison. Mais il partira à son tour pour l'Ouest, lui. Il n'attendra pas tellement longtemps. Et la recrue la plus précieuse, c'est le neveu de La Vérendrye, Christophe Dufraux de la Jemeraie, qui n'a que 22 ans, mais dont la valeur et le jugement sont assez remarquables pour qu'il devienne lieutenant de l'expédition. Lieutenant de l'expédition, c'est-à-dire commandant en second. Et c'est, comme je vous l'ai dit, le frère de Sainte-Marguerite d'Youville. Son nom de fille, n'est-ce pas, c'était Dufraux de la Jemeraie. Alors, on recrute 50 Canadiens, comme on disait, des Canadiens. Et on quitte Montréal le 8 juin 1731, Pour faire en canot le trajet jusqu'à Kaministskia, où on parvient le 26 août, après 2 mois et demi de paysage, de pagaillage plutôt, pardon, sur l'Outaouais, le lac Nipissing, la rivière des Français, la baie Georgienne, le lac Huron, et enfin, après un arrêt à Michilimackinac, sur le Sault Sainte-Marie, puis les 400 milles du lac supérieur. Quand on pense à ça, on se décourage. Mais avant d'entreprendre le récit des voyages de la Vérandry, il faut rappeler certaines données historiques et géographiques sur cette région. Et saviez-vous, quand je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, que l'Empire français de la région des Grands Lacs et de la Louisiane, c'est le fruit des explorations qui avaient été effectuées d'une part par Cavelier de La Salle sur le Mississippi, à la suite de Joliette et du père Marquette, et d'autre part, les expéditions de Nicolas Perrault, de Duluth dans le Wisconsin et le Minnesota d'aujourd'hui, à la suite de Nicolet puis de Radisson. Ces voyageurs-là, ils avaient reculé les frontières des possessions françaises jusqu'au golfe du Mexique et à 500 ou 600 000 au sud-est du lac supérieur. Cela dès avant la fin du 17e siècle. En somme, presque toute l'Amérique du Nord était à nous. Il restait la partie nord-ouest du lac supérieur, le nord-ouest canadien, comme on dit, les prairies, fameuses aujourd'hui et que personne ne soupçonnait alors. On avait bien parcouru en tous sens les rives du lac supérieur, mais on n'était pas allé très loin dans la direction nord-ouest. Et les traiteurs du lac Nipigon avaient cherché à percer le mystère. Ils avaient rencontré de telles difficultés qu'ils avaient renoncé à prolonger leur voyage. Et seul un dénommé Jacques de Noyon, c'est un coureur de bois de 20 ans seulement, 20 ans, avait dès 1688 remonté la rivière Kaministskia, escaladé les hauteurs de l'ouest, s'était rendu jusqu'au lac des Mille Lacs, dont le nom indique déjà l'aspect plutôt marécageux du paysage, puis, au prix de terribles peines, il était parvenu au lac des Bois, 325 milles du lac supérieur. Puis là, il a appris qu'il lui restait autant à faire pour atteindre une terre plus avantageuse. Il s'est découragé, il a broussé chemin, et n'oublions pas, il n'avait que 20 ans. C'est incroyable quand on pense à tout ça. Ils n'ont pas poussé plus loin. Il y a eu des coureurs des bois comme Robutel de Lannoux, qui a eu 9 enfants, dont 2 sœurs de la congrégation Notre-Dame. Une des curiosités de la carte de l'Amérique du Nord, c'est de voir d'abord les grands lacs se déverser dans l'Atlantique. Puis il y a toute la région des marécages qui a rebuté, justement, ce Robutel de Lannoux, là. Au moins 300 000 de marais. Région impropre à la culture, et c'est sur tout ce terrain impossible que la Vérandry va s'aventurer, au prix de sacrifices incroyables, et au milieu d'épreuves surhumaines. La Vérandry est donc finalement sur la rive ouest du lac supérieur, au moment où, avec une expédition de 50 hommes, il commence son expédition. C'est le 26 août 1731. Il pouvait suivre les traces de Jacques de Noyon, qui avait remonté la rivière Kaministskia, puis atteint le lac des Bois. Les Indiens lui déclarent cependant qu'il y a un chemin plus aisé à 40 milles à l'ouest. Et puis, cette route nouvelle, c'était celle qui devait être connue sous le nom de Grand Portage. Vous savez, Léopold Desrosiers a écrit, moi je me souviens dans mon jeune temps, Les Engagés du Grand Portage, on lisait ça, et c'était publié chez Gallimard en 1938. Et cette route que vont suivre tous les voyageurs pendant un siècle jusqu'à l'avènement du chemin de fer commençait par un portage véritablement surprenant. Il y a les chutes étaient si élevées puis les rapides si violents qu'il était nécessaire dès le début là, de faire un portage de 9 000, hein. En tout cas, les épreuves de la Vérandry ont commencé là dans les circonstances. Il pouvait compter que sur ses fils, sur son neveu. Ce frère de Sainte-Marguerite d'Iouville, son neveu la Jemeray. Il pouvait compter aussi sur le père messager jésuite, qui était l'aumônier de l'expédition. Car profondément chrétien, il tenait à voir l'Eucharistie. Et le missionnaire a argumenté avec patience pour encourager les gens à continuer. C'était pas facile. En juin 1732, après un hivernement assez pénible, les explorateurs sont retournés à leur point de départ, où la Vérandry avait vainement tendu des nouvelles de France. La cour de Versailles avait envoyé une approbation de principe, mais aucun secours sollicité. Son voyage par le grand portage, ça a duré plus d'un mois. 7 canots l'accompagnent cette fois, puis les peureux de l'année précédente peuvent se rendre compte des talents vraiment diplomatiques, puis du prestige de leur commandant, Pierre de la Vérendrye. Tous les Indiens que l'on rencontre connaissent déjà la Vérendrye, au moins de réputation, puis lui souhaitent la bienvenue. Et c'est finalement le point extrême atteint par les Blancs, là, au lac des Bois. On trouve à 325 000 des grands lacs, là. Puis on bâtit sur la rive occidentale du lac des Bois le Fort Saint-Charles. C'est absolument phénoménal. Et le prétend venu, la Vérendrye envoie la J'aimerais à Québec pour s'enquérir des secours de France qu'il espère toujours. Puis le père, Messie Gilles, que ces 2 années de voyage difficiles ont rendu malade, est obligé de retourner avec la J'aimerais. Disons tout de suite que le missionnaire a mis 2 années à se remettre de ses fatigues, qu'il lui était impossible dorénavant s'occuper activement des missions en forêt. La J'aimerais arrive à Montréal le 30 septembre 1933, et puis il ne trouve pas les sommes nécessaires pour aider la Vérendrye qu'il aime tellement. Et nous verrons les catastrophes qui vont lui arriver, mais le courage sans borne de ces gens admirables qui sont finalement nos ancêtres. Héros de notre histoire. Et en cet été 1733, la Vérendrye ne perd pas son temps, il s'occupe de cultiver. Il réussit à récolter du blé d'Inde et des grains. Il veut intéresser les Cris dans l'Ouest à l'agriculture, afin qu'ils soient capables, en cas de famine, de faire face à des disettes de gibier ou de poisson. L'expérience est heureuse. Car dès l'année suivante, les récoltes, qui viennent à maturité, empêchent toute une tribu de mourir de faim. On peut dire que la Vérendrye, écoutez bien ça, était le premier semeur dans l'Ouest canadien. C'est aussi, peut-être, le premier semeur d'aide aux Indiens de l'Ouest. Il a semé l'aide. Et par ailleurs, il s'applique aussi à pacifier ces peuplades, souvent guerrières, qui veulent faire la guerre aux Sioux. Son souci de maintenir la paix l'empêche même de faire des voyages de découverte, parce qu'il doit siéger à plusieurs conseils des Indiens, où on exige sa présence. Malheureusement, il ne peut empêcher quelques bandes d'aller guerroyer contre les Sioux. Ce sont des incursions qui n'ont d'autre résultat finalement que d'amener des représailles. La Vérendrye est donc un chrétien qui cherche à répandre la paix. À l'automne de 1733, la Vérendrye ne voit pas revenir son neveu, la J'aimerais, qui était à Québec depuis l'année précédente. Il décide d'aller lui-même plaider sa cause. Imaginez, et après avoir fait les 600 milles qui séparent le Fort Saint-Charles de Michilimackinac, il rencontre, à ce dernier endroit, le 6 juillet 1734, la J'aimerais, qui revient les mains vides. Ce pauvre jeune homme, il est tout jeune, 25 ans, est investi du commandement en l'absence du découvreur. Et il est aussi chargé d'aller bâtir sur le lac Winnipeg un nouveau fort, qui sera le fort Maurepas, du nom du ministre de la Marine de cette époque. Alors, parvenu au fleuve Saint-Laurent, en août 1734, la Vérendrye rencontre au gouverneur Beauharnois de ses travaux. Et il lui expose ses besoins. De nouvelles recommandations du gouverneur sont inutiles. La France n'enverra pas de fonds et on va prier la Vérendrye, déjà endettée lourdement, car il faut qu'il fasse vivre sa famille, de se procurer par le commerce l'argent dont il a besoin pour étendre les limites du domaine français. En somme, l'Amérique est française, presque toute, sauf la côte de l'Atlantique. On lui continuera dans ce but le privilège de traite dans l'Ouest. Seulement, les associés de 1731 ne voudront pas lui avancer d'argent, ses associés, les marchands de Montréal. Il sera forcé de se trouver de nouveaux commanditaires. Il se voit incapable de profiter de son privilège de traite, parce que ça lui prend des moyens d'échange. Il n'est pas nécessaire d'insister sur les embarras. Il est vraiment bouleversé. Il retourne quand même dans l'Ouest. Il retraverse. Il amène cette fois son fils cadet, le petit Louis-Joseph, qui venait d'avoir 18 ans. Reparti le 21 juin 1735, il arrive le 23 octobre au Fort Saint-Charles en compagnie du jésuite Honneau de Latouche, un magnifique missionnaire Honneau de Latouche, un polyglotte remarquable et qui est promis à un ministère fructueux. Il était temps que la véranderie arrive. On manquait de vivres. Et d'autre part, la Jamerec avait fait merveille, avait bâti le fort Maurepas, il avait recueilli 600 ballots de fourrures précieuses. Il était tombé malade. Et par surcroît, la véranderie, qui s'était fait suivre par un convoi de 4 barques de marchandises, apprend que ces barques sont arrivées trop tard pour qu'on en envoie les colis au fort Saint-Charles. Alors l'hiver a été inquiétant. Et là, Pierre de la Véranderie envoie 2 de ses fils assister la Jamerec au fort Maurepas, parce que la maladie de son neveu l'inquiète beaucoup. Et ses pressentiments ne sont que trop fondés. Hein. Au printemps, la Jamerec se fait transporter au petit fort aux Roseaux sur la rivière Rouge, et il y meurt le 10 mai 1736, un an avant que sa sœur aînée, Marguerite Dioville, fonde les Sœurs Grises. Qui sait si à partir de la mort de ce jeune chrétien, les grâces n'ont pas nourri la vocation de sa sœur aînée et la vocation de ses compagnes en 1737. C'était un coup dur qu'a eu à subir la Véranderie. Il perdait en ce neveu de 27 ans son bras droit. C'était l'interprète fidèle de ses grands projets. Le frère de Sainte Marie-Marguerite Dioville ne pouvait être remplacé. Son expérience et son adresse allaient faire cruellement défaut. Et la première conséquence de cette mort a été l'abandon du fort Maurepas qu'on n'était plus capable de maintenir. Mais cependant, 1736, ça a été pénible entre tous. Les Indiens arrivent avec leur fourrure, et les canots de marchandises qui ont hiverné à Kiministiquia, à plus de 300 000. Alors on décide d'aller quérir ces denrées indispensables. Et comme le père Honneau, jésuite, désire se rendre à Michilimackinac pour y consulter ses confrères jésuites en mission, la troupe d'escorte est portée à 18 hommes. Écoutez bien ça, dont le commandant est donné à Jean-Baptiste de la Véranderie, le fils de la Véranderie. Et le groupe de 21 voyageurs ne va pas loin. Ils partent le 8 juin 1736. C'est au moment de la fondation des Sœurs Grises. Et la petite troupe, après avoir navigué sur le lac des Bois pendant 20 milles, aborde une petite île pour y passer la nuit. Et elle y est surprise par les Sioux, puis entièrement massacrée. Le 20 juin, quelques traiteurs découvrent les cadavres des victimes. Ils ont tous été décapités, excepté celui du père Honneau, qui promettait tant, ce polyglotte, ce magnifique missionnaire. Les restes sont inhumés en septembre 1736, au moment de la fondation des Sœurs Grises, dans la chapelle du Fort Saint-Charles. Ils y sont demeurés jusqu'en 1902, alors qu'une équipe de recherche patronnée par les pères jésuites de Saint-Boniface les a retrouvés pour les transporter au collège de Saint-Boniface. Et ces reliques sont disparues dans l'incendie de ce collège, quelques années plus tard. Et pour revenir à cette terrible année 1736, il est à peine besoin de faire remarquer que les opérations de tout genre ont été réduites à presque rien. La Véranderie supporte la perte tragique de son fils aîné, venant après la mort de son neveu, avec une vaillance qu'il faut bien appeler héroïque. C'est un héros que la Véranderie, un grand chrétien. Et ainsi les alliés indiens, Cris et Assiniboines, passent la saison d'été à proposer une guerre de vengeance contre les Sioux. Mais la Véranderie, chrétien, s'y oppose de toutes ses forces. Il ne faiblit pas dans cette résolution qui vient de son cœur. Et il réussit à empêcher les combats, qui n'arrangerait rien de toute façon. et qui sont contraires à sa foi de chrétien. Alors, privé d'une vingtaine d'hommes aguerris et expérimentés, il compte sur le convoi de l'automne pour refaire ses ressources et reprendre les découvertes. Alors, les canots de cette année-là, 6 en tout avec 29 hommes, arrivent encore trop tard et on laisse les gargaisons à l'est du lac La Pluie, à 150 milles au moins du Fort Saint-Charles. Mais il les envoie chercher et en plein hiver, en février de 1637, la Vérendrye va visiter le Fort Maurepas, à 100 milles de distance du Fort Saint-Charles, afin d'y amorcer des préparatifs. Pour aller chez les fameux Mandanes, ceux qui savent comment se rendre là, à la mer de l'Ouest, à l'océan Pacifique. Et le courage du chef est trop grand pour celui des hommes. Ben oui, la Vérendrye a trop de courage et on refuse de le suivre. Alors il revient en mars à son quartier du Fort Saint-Charles, résolu d'aller chercher une fois de plus du renfort à Québec. Une fois de plus, il veut retourner à Québec. Et le 3 juin 1737, il laisse le lac des Bois avec 14 canots de fourrure, puis parvient à Québec à la fin de septembre pour y trouver non pas de la sympathie pour ses épreuves, mais des blâmes, des accusations malveillantes. On pourrait peut-être le prier si c'est un saint, mais il est probablement au ciel. Nous qui sommes blâmés parfois, qui avons des accusations malveillantes, nous tous, ça nous arrive à tout le monde, hein, ça arrive partout. On pourrait peut-être se réfugier à la pensée de la Vérendrye, l'oncle de Sainte-Marguerite d'Youville. Même le ministre Maurepas trouve moyen d'attribuer le massacre des 21, donc tout à l'heure, là, à l'envie de commercer, alors que la Vérendrye n'exerçait plus même le contrôle sur le commerce. Et c'est alors qu'on voit de quelle trempe était cet homme vaillant, la Vérendrye. Ayant tout perdu, ses biens personnels, son privilège, son fils aîné, puis son neveu préféré, il va s'acharner encore à poursuivre ses projets. Et même dans la défaite, il va paraître plus grand que jamais. La Vérendrye ne perd pas pour courage. Il poursuit son rêve de la découverte d'une route vers la mer de l'Ouest. Mal reçu, il doit même se justifier de ne pas avoir réussi à pousser plus loin ses explorations. On le laissait à ses propres ressources. Les pouvoirs officiels se refusaient à lui accorder le moindre secours. Et on va jusqu'à suspecter sa bonne foi, sans tenir compte des travaux accomplis, ni des dettes qu'il a contractées. Pauvre homme! Et la Vérendrye ne faiblit pas sous l'insulte. Il ne se décourage même pas de ne recevoir aucun secours. Il trouve encore moyen de former une nouvelle société qui lui procure 6 canots de marchandises, puis il repart le 18 juin 1738 avec 22 hommes. Après un voyage pénible, il est au Fort Saint-Charles le 31 août, pendant son absence de 14 mois. Eh bien, les Indiens alliés avaient tenté une expédition contre les Sioux, mais la troupe de 1350 guerriers avait été atteinte de petites véroles et était revenue penaude dans ses quartiers. Et la Vérendrye, toujours pacifique, dans toute sa carrière d'explorateur, il n'a jamais livré aucun combat, il n'a jamais versé le sang de personne. Mais il a blâmé énergiquement les Indiens et il les avertit de ne plus penser à la guerre, sous peine de lui voir abandonner les forts construits puis d'être privé de tout ravitaillement. Puis le 11 septembre 1738, il part pour l'inconnu, laissant Pierre de la Vérendrye au Fort Saint-Charles. Il amène ses deux autres fils, François et Louis-Joseph, et le 22 septembre, il est au Fort Maurepas sur le lac Winnipeg. Puis remontant la rivière Rouge, il passe au Fort aux Roseaux, où gisent les restes de la Jemeraie, son neveu. Il parvient au confluent des rivières Rouges et Assiniboine, le 24 septembre. Il se trouve sur le site actuel de Winnipeg, où il n'y a alors que 10 pauvres cabanes de cris. C'est ça, Winnipeg, dans ce temps-là. Et il file vers l'ouest, remontant le cours de l'Assiniboine pour une distance de 80 milles, jusqu'au site présent de Portage de la Prairie, on connaît ça, où il fonde le Fort La Reine, qui sera désormais la base principale pour ses découvertes futures. C'était le premier fort français dans les prairies. Et là, le 18 octobre 1738, il part avec 27 Français et 25 Indiens pour aller chez les Mandanes, les fameux sauvages blancs, comme on dit, dont on lui a tant parlé. C'est un voyage de 300 000. Mais on a déjà pris rendez-vous avec les Mandanes, que l'on a rencontré le 30 novembre, et la Vérendrye est déçue de constater que les Mandanes, s'ils avaient le teint plus clair que les peaux-rouges ordinaires, ne sont malheureusement pas beaucoup plus civilisés que leurs congénères. Même les nouveaux venus ne paraissent guère disposés à s'entendre avec les autres Indiens. Ce sont des guerriers, ils veulent guerroyer. Et la Vérendrye, malgré Que ce soit des ennemis communs des Sioux et qu'ils s'entendent assez bien pour piller les bagages des Français, finalement, c'est tout ce qu'ils veulent. Il est déçu encore une fois. Alors, la véranderie se trouve sur le site, à ce moment-là, de la ville actuelle de Bismarck, centre et capitale de l'État du Dakota Nord, sur le Haut-Missouri, là. Mais il ne peut arranger les choses pour poursuivre ses voyages vers l'océan Pacifique, vers la mer de l'Ouest. La route n'est pas libre. D'autres nations se trouvent en guerre. Et la véranderie voit ses vivres s'épuiser, décide de laisser une couple de Français qui apprendront les langues régionales pour servir plus tard d'interprète. Puis lui, il repart, imaginez, le 9 janvier 1739, au cœur d'un hiver très dur, pour retourner au fort La Reine, et par surcroît, il tombe malade la veille du départ. Il doit littéralement se traîner sur ses raquettes pendant la plus grande partie du trajet. Quel courage! Et à 125 milles du but à atteindre, il pense même mourir. Il doit s'arrêter plusieurs jours, incapable de continuer. Il n'arrive au fort La Reine que le 10 mars, après un voyage de 2 mois, qu'il se rappelle comme une de ses plus dures épreuves physiques, doublée de la déception de n'avoir pu trouver de renseignements satisfaisants. Alors, après un hiver épuisant, la véranderie remet le commandement entre les mains de son fils Pierre. Puis il part pour Montréal, imaginez encore une fois, où il arrive le 25 août 1740. Il doit faire face sans tarder à des procès mesquins. Cependant, il règle tant bien que mal l'affaire de la saisie. Il obtient sursis. Puis là, il repart encore le 26 juin 1741 pour l'Ouest. Il arrive au fort La Reine, après un voyage de plus de 1000 milles. En son absence, on est allé commencer un fort, le fort Bourbon, au nord du lac Winnipegosis, non loin de l'embouchure de la Saskatchewan. Pierre de la Vérendrye, son fils, part dès cet automne pour construire le fort Dauphin entre les lacs Manitoba et Winnipegosis. Ces deux nouveaux postes ont pour fonction d'empêcher les Indiens des prairies d'aller commercer avec les Anglais de la baie d'Hudson, car il y avait toujours cette lutte avec les Anglais de la baie d'Hudson. Et là, la véranderie songe toujours à retourner chez les fameux Mandans, ces Indiens qui lui paraissent en relation au moins éloignée avec les Espagnols de la côte de la Californie, tout à fait vers le sud. Et il lui semble qu'il trouvera des guides qui pourrait le conduire à l'océan Pacifique, et cependant, de nouvelles rumeurs de guerre entre les Indiens des prairies l'empêchent de faire lui-même l'expédition projetée. Lui seul pouvait assurer la paix entre les tribus, il est obligé de rester. Ce sont ses fils, Pierre et Louis-Joseph, qui partent vers le pays des Mandans en 1742 au printemps pour un voyage extraordinaire d'au moins 800 milles dans les immenses plaines. Et alors, ils aperçoivent les contreforts des montagnes rocheuses. Le 1er janvier 1743, à un endroit que l'on situe aujourd'hui à 125 milles à l'est du parc national de Yellowstone, ils sont les premiers Français à prendre connaissance de ce formidable obstacle naturel. Ils ne peuvent pas le franchir, c'est évident. Alors, il est vrai que la véranderie, Pierre... La véranderie veut au moins explorer des terres nouvelles. Il fait un détour, se dirige vers le sud-est, ça le mène au cœur du Dakota Sud, où il établit le Fort Pierre, à l'endroit précis où se trouve la capitale de cet État américain qui s'appelle Pierre, encore aujourd'hui, en 1996. Et c'est Pierre de la Véranderie. Oui. Le cousin de Sainte-Marguerite d'Youville, qui a donné le nom à la capitale du Dakota Sud. C'est à cet endroit qu'a été enfouie sous une pyramide de cailloux une plaque de plomb qui portait l'inscription suivante, posée par le chevalier et Louis-Joseph de la Véranderie, Louis Lalondette, à Miotte, le 30 de mars 1743. Or, les deux compagnons de la véranderie, là, c'était eux qui l'allons dette et puis Miotte. Et cette plaque a été retrouvée par des enfants le 16 février 1913. C'est une des rares reliques des expéditions de la véranderie. Évidemment que la ville de Pierre, là, la capitale, conserve ça très précieusement. En somme, les découvreurs des Rocheuses étaient de retour au Fort La Reine. Leur père les attendait avec autant d'impatience. Or, pendant que ses fils s'atteignaient les Rocheuses et que lui-même au Fort La Reine pacifiait les indigènes à force de patience et d'adresse, ses rivaux montent un complet plus mesquin que tout ce qu'il avait fait jusque-là. Et là, c'est terrible la misère qu'on lui fait. Il se sent incapable de résister à ce nouveau coup, ce pauvre La Vérendrye. Ses travaux, ses voyages, sa dernière maladie ont miné ses forces. Et d'autre part, ses espoirs toujours déçus, ses requêtes toujours repoussées, la mauvaise volonté tout au moins, le manque de générosité de ses associés ont fatigué son courage et ont abattu son optimisme. Alors il donne sa démission au gouverneur Beauharnois, il abandonne ses postes de l'Ouest, il ne garde que ses dettes contractées au service de son pays, de notre pays. Et le gouverneur choisit un de ses meilleurs officiers pour remplacer La Vérendrye, c'est le sieur des Noyelles, qui va commander au fils de La Vérendrye dans cet ouest, qui est sa création. Mais ce sera une catastrophe. Et là, finalement, le gouverneur Beauharnois est bouleversé par l'injustice qui a été mise envers celui qu'il a si longtemps protégé. Il essaie de l'aider. La Vérendrye, cet homme de 64 ans, brisé par toutes les épreuves, écrit au ministre en le remerciant, en disant trop heureux, si à l'issue de toutes les peines, fatigues et risques que j'ai essuyés dans cette longue découverte, je pouvais parvenir à vous prouver mon désintéressement, mon grand zèle, aussi bien pour celui de mes enfants, pour la gloire du roi et le bien de la colonie. Ses plans étaient établis, il voulait retourner, mais il ne pouvait pas. Et ses trois fils, Pierre-François et Louis-Joseph, qui avaient continué de servir, qui avait construit un nouveau fort Bourbon sur le lac des Seines, qui avait fondé le fort du Pas, nommé en l'honneur de l'île du Pas, cette terre de mon ancêtre, finalement, où mon ancêtre Jean Beaugrand Champagne vivait, qui avait, ses fils même, bâti le fort La Corne, etc. Mais ces trois vaillants vont demander de continuer l'œuvre de leur père. Le Canada français ne compte pas de descendants directs du découvreur de l'Ouest. Pierre est mort à Québec en 1755. François est mort célibataire à l'Hôtel-Dieu de Montréal en 1794, à l'âge de 82 ans. Louis-Joseph a péri en 1761 dans le naufrage de l'Auguste sur les côtes du Cap-Breton. Et puis, en même temps que lui, ont péri ses deux sœurs, Marianne et Marie-Catherine, avec leurs époux, Hippolyte et Jean Lebert, et les deux enfants de Marie-Catherine, Jacques et Louis-Joseph Lebert. Nos contemporains ont commencé à réparer les injustices du passé. La Vérendrye a des statues à Québec, aux Trois-Rivières, à Winnipeg, à Portage-la-Prairie. Les gouvernements canadiens et américains ont donné son nom à des parcs nationaux. Des comtés, des villes, des rues portent aussi son nom. Ce serait bien si, au lieu de la rue Sherbrooke, on avait la rue de la Vérendrye. Ce serait tellement plus beau, hein? Mais ce nom prestigieux et tragique doit revivre surtout dans nos cœurs. Des cœurs reconnaissants. Le courage et l'audace sont de grandes vertus. Les saints les ont cultivés. Pierre de La Vérendrye est donc mort et a été enterré ou enseveli à l'église Notre-Dame, l'ancienne église Notre-Dame. Quand vous y allez, pensez à ce courage extraordinaire, ce dépassement de cette famille des La Vérendrye et de son neveu, le frère de Sainte Marguerite d'Youville. Vous savez, il faut être fier de nos ancêtres, fier de notre passé. Si nous étions plus fins connaisseurs de notre histoire, peut-être aurions-nous plus de courage et peut-être nous déciderions davantage à devenir vraiment, non seulement de vrais hommes, de vraies femmes, mais des saints.